Il y a des mots, les nôtres, ceux de tous les jours, qu'on utilise l'air de rien, et puis les plus savants, rares, pour faire genre ou préciser un sentiment, une vision, mais qui existent bien. Et puis il y a ceux qu'on invente pour le plaisir, par erreur, sans savoir, et puis.
Pascal Paradou.
Et puis, il y a des mots qui n'existent pas, mais qu'on emploie quand même, selon le titre du nouveau livre de Sylvie Brunet, qui encore une fois joue aux archéologues dans le lexique français, toujours à l'affût des mots démodés, oubliés, ceux de grand-père ou de pépé, ceux du siècle d'avant. Bonjour Sylvie Brunet.
Bonjour.
En est-il de la linguistique comme de l'archéologie? Est-ce qu'il faut fouiller, remonter le temps pour comprendre le sens des mots?
Oui, et puis c'est aussi passionnant qu'être archéologue et puis découvrir effectivement des fossiles. Et là, je suis partie à la recherche de fossiles dans ce livre, justement.
Souvent, les enfants rêvent d'être archéologues. Enfant, vous vouliez être quoi ?
Pas archéologue, non. Mais je rêvais d'être écrivaine. Sauf qu'à ce moment-là, je disais écrivain. Parce qu'on ne disait pas encore écrivaine.
Oui, c'est ces dernières années qu'on a féminisé les noms, et notamment les noms de métiers. Mais alors, comment s'appelle quelqu'un qui aime les mots, sans forcément enseigner la linguistique, ce qui est votre cas? Est-ce que vous êtes une dictopathe, amoureuse des dictionnaires?
Dicopathe, comme ce...
Oui, dicopathe et pas disco,
oui,
en effet.
Comme se définit, en fait, Jean Prouvost, c'est comme ça qu'il se détermine. Moi, je dirais que je suis une arpenteuse de dictionnaire. J'aime bien le mot d'arpenteuse parce que je m'y promène, j'y trouve mon miel, je feuillette. Et puis, bon, depuis qu'on a, tout en accès facile, maintenant informatisé, on peut trouver des dictionnaires absolument incroyables et s'y perdre.
Et on peut faire des comparaisons, vérifier le sens d'un mot au XVIIe siècle et aujourd'hui, etc., etc. J'ai vu que vous étiez aussi, Sylvie Brunet, avant de parler de votre livre, traductrice du japonais.
Non, non, ça c'est pas exact. C'est pas moi qui l'ai mis, hein, comme vous vous en doutez bien. Mais j'ai eu l'occasion de participer à une traduction du japonais. Mais disons que moi, j'assurais la partie française. Et j'ai traduit ça avec une japonaise. Donc.
Une interprète japonaise, ok. Donc, votre passion est venue comment, Sylvie Brunet, pour les mots? Est-ce qu'elle est venue au fur et à mesure?
Pas vraiment au fur et à mesure. Je dois dire que quand on a la passion des mots, elle est chevillée au corps dès l'enfance. Et quand vous écoutez quelqu'un parler, vous n'écoutez pas simplement ce qu'il dit. Il y a une espèce de dédoublement. Et les gens qui sont passionnés par les mots me comprendront. Et vous recueillez en même temps les mots de cette personne. Et vous dites, ah tiens, il emploie ce verbe-là. Un peu comme si vous disiez, ah tiens, elle a les yeux bleus, il porte la barbe, etc. C'est des choses que vous notez comme ça, comme si ça pouvait servir. Ça ne sert pas vraiment un jour, mais on le note, on ne peut pas s'empêcher de le relever.
Donc quand je vous demande d'où est venue votre passion, si elle est venue au fur et à mesure, en tant que Sylvie Brunet, vous dites c'est quoi cette expression au fur et à mesure, c'est ça? Parce que c'est le sujet de votre livre, en
Exactement.
Fait.
Exactement, parce que si je demande à tout un chacun d'où vient ce fur, vous comprenez très bien au fur et à mesure. Au fur et à mesure du temps, il a acquis sa notoriété. On comprend très bien, c'est quelque chose qui s'est déroulé, un processus qui s'est déroulé dans le temps. Mais si je vous demande de faire l'analyse du mot à mot, vous dites, mais c'est vrai que ce fur, c'est quoi? Et alors, la surprise ne s'arrête pas quand vous cherchez dans un petit dictionnaire d'usage, je ne parle pas des dictionnaires anciens, bien entendu, mais si vous cherchez ça dans le Petit Larousse, eh ben, fur, vous ne trouvez aucune entrée. Il n'existe pas, il n'existe plus.
Alors, désolé de vous contredire, Sylvie Brunet, mais dans le Petit Robert édition 2024, fur existe. Il y a une définition du mot fur, parce que je suis allé chercher, oui. Je vérifie. Et ça voulait dire un taux, comme un taux d'intérêt.
Absolument.
Mais le dictionnaire reconnaît que c'est un vieux mot dont le sens est devenu obscur. Mais il y a une entrée fur quand même.
Il y a une entrée fur, et il n'y en a pas dans le Petit Larousse, j'ai vérifié en fait. Et l'entrée dont vous parlez, effectivement, faisait référence à un emploi du XIIe siècle, quand le mot est apparu, et on disait « à aucun prix, à nul fuer », qui était la forme la plus ancienne du mot « fur ». Parce que ce « fur », il vient, on ne sait plus, il vient du forum romain. Le forum étant l'endroit où se réalisaient les transactions commerciales. Donc, par métonymie de la transaction du forum, on est passé au prix lui-même. Et ensuite, ça a évolué vers le sens de proportion. Puis, un petit peu plus tard, comme on le comprenait moins, il s'est jumelé avec la mesure. Et pour l'oreille, c'est très satisfaisant, puisque ça fait rime au fur et à mesure. Et nous, notre façon de comprendre l'expression, elle est tout entière conditionnée par Littré. Parce que Littré, il dit, au XIXe siècle, donc il dit expression pléonastique. Ça veut dire la même chose. Au fur et à mesure, ça veut dire exactement la même chose. Moi, je ne pense pas que ça voulait dire la même chose, que c'était vraiment sans doute deux choses très différentes, puisque ça indiquait une proportion, effectivement, une évaluation, mais le fur parlait du prix, du taux, et la mesure parlait de la quantité. Et pour nous, les anciens, ça devait être très différent de connaître le fur et la mesure.
C'est vertigineux, finalement, à vous entendre, rentrer dans le sens des mots et des expressions.
Quand on tombe là-dedans, on n'en sort plus, là, je vous assure.
Au fur et à mesure, nous allons découvrir ces mots qui n'existent pas. Mais d'abord, on va laisser la parole à Angélique Kidjo et à Roselyne Layot en duo pour un titre événement. On sera là.
On va plus se donner pour les gens n'importe comment. On va plus se gaspiller n'importe comment. Désormais on ira voir ceux qui ont envie de nous voir. On va donner de l'amour à ceux qui le méritent.
On avait besoin de soutien, on sait qui a parlé.
On cherchait quelqu'un pour nous aider, on sait qui a bougé.
Quand ça n'allait pas, on sait très bien qui priait pour nous.
Alors ne sois pas étonné de voir qui on invite à manger. Aujourd'hui, on sait qui on va mettre au dos. On va plus se donner pour les gens n'importe comment. On va plus se gaspiller n'importe comment. Désormais, on ira voir ceux qui ont envie de nous voir. On va donner de l'amour à ceux qui le méritent.
Nous ont donné. Tout le monde pourra profiter, mais à chacun ses priorités. Oui, ça c'est clair, franchement ça c'est clair. Quand il y avait le brouillard, on sait qui nous a aidé à voir clair. On sera là pour les gens qui étaient là. On sera là pour les gens qui étaient là. C'est un besoin de nous, pas de lèvres, pas de soucis. Mais on sera là pour les gens qui étaient là.
Very good.
La star Kid Joe et la très prometteuse Roselyne Layo, deux générations de chanteuses réunies dans ce titre, on sera là sur RFI en avant-première. Vous êtes là, Sylvie Brunet, avec une soixantaine d'expressions, ou plutôt de mots qui, dites-vous, n'existent pas seuls de façon autonome. Par exemple, qui peut dire ce qu'est une lurette dans l'expression « il y a belle lurette » qui veut dire finalement « il y a très longtemps ». Est-ce que ça existe une lurette ?
Eh bien non, ça n'existe pas. Enfin, si on la cherche sous la catégorie des diminutifs, comme une maisonnette est une petite maison, une fillette est une petite fille, et si on cherche la lurette qui est une petite lure, alors là, vous ne trouverez pas de lure. Elle n'existe pas. En revanche, si vous cherchez du côté des mots régionaux, eh bien là, vous la trouverez, parce que une petite heure, c'était une heurette. Et dans certaines régions de France, dans le nord, dans l'est de la France, on prononçait « urette ». Et il y avait même les deux prononciations qui étaient en concurrence.
Donc le mot se déforme
Il ne se déforme pas, si vous voulez. Il fait corps avec la belle et on fait une mauvaise coupe. Au lieu de couper « belle urette », on coupe « belle lurette » en deux syllabes comme ça. Et du coup, on ne comprend plus. On voit apparaître une lurette qui n'avait rien à faire. Et ce bel permettait d'apprécier une portion de temps qui était importante. Quand quelqu'un arrivait très en retard, on lui disait « vous arrivez à belle heure » ou « à une belle heure ». Donc une belle lurette, c'était une sacrée petite heure.
Donc c'est la façon de parler, en fait, qui entraîne la mauvaise coupe, la déformation du mot et la formation de l'expression.
Exactement.
Et parfois le régionalisme. Souvent le régionalisme, d'ailleurs, non ?
Oui, le régionalisme, on ne comprend plus la forme et du coup on la réinterprète.
Alors, même chose pour l'expression « à la bonne franquette », qui est très partagée, que tout le monde connaît, « à la bonne franquette », on va dîner à la bonne franquette ou déjeuner à la bonne franquette. Il y a du parler picard dans cette expression, si je vous ai lu.
C'est du parler picard et normalement, puisque franc a pour féminin franche, on devrait avoir en français « à la franchette ». Si vous mettez un diminutif, vous devriez avoir « à la franchette ». Or, le normand et le picard sont intervenus et on a dit « à la franquette ». Et parler ou agir à la franquette, c'était chez Molière, par exemple, ça voulait dire parler, agir franchement, sans arrière-pensée. Et plus tard, ça a été réinterprété et c'est devenu sans façon, à la fortune du pot, sans se gêner, venez manger chez nous,
simplement,
à la bonne franquette, en toute simplicité.
Alors, autre expression que j'affectionne particulièrement dans votre livre, Sylvie Brunet, c'est « potron miné ». Alors, il existe dans le dictionnaire, dans le Robert en tout cas, mais l'usage reste mystérieux. Potron miné, d'autant qu'on peut dire aussi qu'on a pu dire, Victor Hugo en atteste, potron minette.
Oui, on disait même patron minette dans Les Misérables, Victor Hugo. Et c'est vrai que c'est une forme qui joue tellement sur l'imaginaire que tout le monde a eu envie d'y mettre son grain de sel. Donc, il y a eu des poistrons minets, des patrons jaquets. Parce que l'autre forme qu'on comprend encore moins, c'est le potron jaquet. Alors là, c'est le mystère total.
Jamais entendu. Potron jaquet.
Potron jaquet, c'est la forme la plus ancienne. Encore le potron minet, nous on comprend. Enfin, ceux qui emploient la formule, vous avez peut-être des amis qui vous disent « Oh là là, ce matin j'ai commencé à travailler des potrons minets ». Et vous comprenez qu'il fait allusion à cette vieille forme qui veut dire « se lever à l'aube ». Mais elle vient donc du potron jaquet. Et le jaquet, c'était l'écureuil. Et l'écureuil a la réputation de se lever très très tôt. Donc, le potron, c'est le poistron en ancien français. Ça vient du posterus, du derrière en latin. Donc, dès qu'on voit le derrière de l'écureuil, ça veut dire très tôt le matin. Et par la suite, comme on n'a plus compris la forme avec le jaquet qu'on ne comprenait plus, on l'a remplacé par un minet qui était beaucoup plus courant. Et le minet, le petit chat, étant lui aussi assez matinal. Donc, dès qu'on voit le derrière d'un chat, ça veut dire « bientôt le matin ».
Vous savez tout. Alors, je vais vous faire une confidence, Sylvie Brunet. J'adore Barbara.
Pour qui, comment, quand et combien, contre qui, comment et combien, en perdre le goût de vie. le goût de l'eau, le goût du pain, et celui du perlin pimpin, en le square des Bastillons.
Perlin pimpin de Barbara, c'est aussi une des expressions de votre livre « Ces mots qui n'existent pas », la poudre de perlimpinpin. Mais ça existe puisque Barbara l'utilise et je n'ai pas d'autre maîtresse que Barbara. Donc tous les mots de Barbara existent. Qu'est-ce que vous me racontez, ce livre, que ça n'existe pas?
Bien sûr que ça existe, mais on ne sait pas d'où il vient, ce perlimpinpin. On imagine qu'il a sans doute une origine, peut-être onomatopéique, peut-être c'est une sorte d'un abracadabra, tout ce qu'on sait, une petite formule magique comme ça, tout ce qu'on sait, c'est la première forme sous laquelle il est apparu, c'était prelimpinpin. C'est la forme la plus ancienne qu'on ait dans les dictionnaires. Dans les curiosités françaises, Oudin, c'est la première forme qu'il donne. Et là, ce qui est amusant, c'est que les deux, les 1-1, perlimpinpin, les deux prennent un M. Donc, il était bien conscient que devant P et B, on met M en français. Et à part ça, on ne sait pas très bien. Donc, vous savez que nos ancêtres, ils achetaient beaucoup aux marchands ambulants toutes sortes de poudres, des poudres de crapauds séchés, des poudres d'yeux de vipère. On dit même que les perles étaient mises en poudre et que Cléopâtre en consommait beaucoup. Bon, il y a toute cette
mythologie. Et ça faisait des miracles, forcément.
Et ça faisait des miracles. Et quand ça ne faisait pas de miracles, on parlait d'un charlatan et on disait « Celui-ci, il nous a vendu de la poudre de perlimpinpin ».
Alors, il y a la poudre de perlimpinpin, il y a la poudre d'escampette. Alors ça, c'est pareil. Ça veut dire partir, fuir. Une escampette, on ne sait pas trop.
On ne sait pas trop non plus. Et il y a encore des mystères sur ces expressions, et ça c'est très bien, puisqu'on avait un vieux verbe qui voulait dire fuir, escamper, faire escampe, mais c'est apparu sous la forme d'un diminutif escampette, avec une poudre. Mais quelle est cette poudre? Généralement, on l'explique ou bien par la poudre à canon, ça veut dire que quand on a lâché la poudre du canon, il vaut mieux prendre ses jambes à son cou et fuir très très vite, ou bien la poudre qu'on soulève le long du chemin quand on est en train de prendre la fuite. Dans tous les cas, il faut vite s'enfuir, ça veut dire... moi je pense que la forme la plus ancienne étant avec de la poudre d'escampette, j'ai regardé dans tous mes dictionnaires, et maintenant c'est la forme avec prendre la poudre d'escampette qui l'a emporté, mais avec de la poudre, donc ça veut dire que là on est peut-être dans une plaisanterie d'autrefois où on disait que si tu avais pris de la poudre magique, t'aurais eu ce super pouvoir et puis t'aurais pu filer à toute vitesse, quoi.
Quelle est la part des mots anciens survivants dans le vocabulaire français d'aujourd'hui, Sylvie Brunet? Alors, je ne vous demande pas un chiffre ni une statistique, mais est-ce que c'est important, cette survivance finalement de l'ancien français dans le parler tel qu'il se cause aujourd'hui?
Si vous voulez, sous cette forme-là et vraiment fossilisée, il n'y en a pas beaucoup. Et quand j'ai commencé à réfléchir sur le livre, je me suis dit, est-ce que je m'en trouvais suffisamment pour faire un livre? Et j'en ai trouvé une soixantaine, donc je me suis dit, c'est bon, il y a la matière pour un livre.
Mais c'est exhaustif. Presque.
C'est ce que j'ai trouvé. Quelqu'un qui va encore chercher va en trouver d'autres. Si moi, je cherchais encore, sans doute, j'en trouverai d'autres. Et puis, j'ai limité ma recherche vraiment à toutes les formes qui n'avaient plus du tout d'entrée individuelle dans le dictionnaire. Mais... si vous voulez, c'est un petit peu comme... moi, j'aime bien faire l'analogie avec un insecte. Vous savez, les insectes qui sont pris, ou les petites fougères qui sont pris dans l'ambre. C'est ça qui les a conservés. C'est ça qui leur a permis de subsister jusqu'à aujourd'hui. Et puis, bon, les naturalistes, quand ils les découvrent, ils découvrent une mouche ou une fougère qu'ils ne connaissaient pas et qui date du Crétacé. Bon, notre Crétacé est assez modeste sur la langue française, puisqu'on ne va pas remonter très très loin par rapport à ce type de recherche, mais c'est tout à fait analogue.
La langue et ses inventions passionnent les internautes, les Français en général, les youtubeurs aussi, à l'image de David Louapre, qui est mathématicien, titulaire du compte Science Étonnante pour vulgariser la science, et qui a créé un logiciel pour créer des mots et s'amuser un peu.
Ce qui peut devenir vraiment drôle, c'est d'utiliser les mots qui ont été inventés par la machine pour créer des textes bizarres, vous savez, un peu façon Oulipo. Je me souviens, quand j'étais au lycée, notre prof de français s'amusait à nous infliger les poèmes de Saint John Perse. Je sais pas si vous connaissez cet auteur, mais dans ses poèmes, il y a toujours tout un tas de mots incompréhensibles. Alors en fait, c'est des mots qui appartiennent vraiment à la langue française, mais qui doit être le seul à utiliser. Genre ça.
Je m'éveille songeant aux fruits noirs de la nippe dans sa cupule verruqueuse et tronquée. Saint John Perse.
Et donc aujourd'hui, j'ai décidé de me venger de Saint John Perse en écrivant moi-même mon poème incompréhensible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai gardé les petits mots les plus courants de la langue française, et puis au milieu, j'ai casé tout un tas de mots qui ont été produits par la machine. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. Après avoir folionné toute la nuit, nous rûmâmes enfin auprès du combric. Et là, tandis que les friandeux déodent leurs alémotes, nous accoldons nos cogiries qui n'avaient cessé de fléesser depuis des heures. Et soudain, une horde de par des alices cafoula vers nous. Heureusement, nous avions nos mornaques.
Sylvie Brunet, la langue ne s'invente pas avec des machines, mais la poésie autorise
oui.
Tout, en fait.
C'est goulayant, on va dire, quand on entend ça, c'est sûr, c'est certain. Ouais.
Ça pourrait presque faire penser à Rabelais.
Oui.
Sans la machine en plus. Ou est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va perturber justement l'évolution de la langue ou accélérer sa compréhension ou est-ce que vous regardez l'IA avec un air comme ça un peu circonspect et inquiet?
Forcément, moi, comme tous les gens qui travaillent sur la langue et qui essaient d'écrire, on se demande ce que ça va avoir comme répercussion sur l'édition, surtout. Et sur la langue, bien entendu, que ça aura un effet. Mais déjà... depuis 30 ans qu'on utilise les machines, ça a déjà eu des effets sur la langue. Quelquefois, des effets bénéfiques, parce que les gens se sont beaucoup échangés des formules. Comme on s'échange un peu le bœuf mirotant de sa grand-mère, on aime bien se dire un vieux proverbe, on aime bien s'échanger une vieille expression, montrer une couleur d'une locution que sa grand-mère employait, etc.
Oui, et puis il faut dire qu'avec l'intelligence artificielle, il faut bien formuler et donc bien écrire les questions qu'on pose à la machine. Alors, en catimini, encore un mot étrange de votre livre, Lucie Bouteloup est rentrée dans ce studio. Bonjour Lucie.
Bonjour Sylvie, bonjour Pascal.
Vous connaissez bien toutes les deux.
Oui, effectivement. On a été souvent complices pour des expressions.
Vous êtes en effet, Lucie, vous aussi, complètement accro aux expressions. C'est un peu votre carburant. Hein.
Oui, c'est vrai. Donc, comme le disait Sylvie, on en a décortiqué quelques-unes ensemble. Alors, il y en a une dans ce livre, moi, qui m'a particulièrement intriguée et que je ne connaissais pas, qui est « Être entre le ziste et le zeste ». Qu'est-ce que c'est que ce ziste ? Le zeste, je pense au zeste de citron, mais peut-être que je me trompe, Sylvie.
Mais ça sera une puce bientôt, peut-être, non ?
Peut-être !
Ce serait bien de demander aux enfants, effectivement, ce qu'ils en pensent. Ben, on ne trouve pas vraiment la réponse, parce que les entrées du ziste dans les dictionnaires anciens nous renvoient au zeste. On a une seule certitude, c'est le zeste de citron. Mais entre le ziste et le zeste, ce n'est pas... pas de l'orthographe avec un E. Et on nous renvoie à l'un ou à l'autre. On pense que le zeste était une façon d'envoyer balader quelqu'un. On disait « zeste ma mère ».
C'était une interjection.
Zeste Lucie. Non, jamais j'oserais ça. En tout cas, Lucie, toutes les semaines, vous présentez la puce dans cette émission. Mais aujourd'hui, pour célébrer la francophonie, puisque c'est la période, vous avez décidé que ce serait une façon de parler, enfin presque.
Façon de parler, hein.
Façon de parler.
Façon de parler.
Une façon de parler ou une façon de chanter.
Oui, aujourd'hui, Pascal, on va célébrer la francophonie en musique, mais aussi avec sagesse. Et oui, les deux ne sont pas incompatibles. La preuve avec Zagba le requin, c'est mon invité. Pascal, Sylvie, vous le connaissez peut-être pas. Pourtant, en Côte d'Ivoire, Oscone Dokoui, aka Zagba le requin, donc, est une star du rap ivoire et du coupé décalé. Il est aussi connu pour ses proverbes qu'il aime distiller dans ses morceaux ou dans ses collabs. Il a d'ailleurs écrit un livre, Les proverbes de Zagba le requin, tout simplement, façon de parler spéciale Zagba le requin, c'est parti.
Zagba le requin quadranozo qui mange à table avec le Bavoua Prada, il y a danger.
Bonjour Zagba.
Bonjour.
Alors Zagba, moi aujourd'hui je suis complètement au bout du rouleau, il faut dire que l'actu n'aide pas. Vous êtes chanteur, mais pas que, vous êtes aussi un sage et vous avez quelques proverbes à nous proposer. Qu'est-ce que vous pourriez me dire là pour me remonter un peu le moral? Qu'est-ce qui collerait le mieux?
Bon, ils ont éteint notre lumière, mais on s'est transformé en soleil sûr.
Ça, je crois que c'est l'objet d'une chanson. On va l'écouter tout de suite.
Ok.
Ils ont éteint était notre lumière, s'est transformé en soleil cieux.
Alors qu'est-ce que ça veut dire ce proverbe?
C'est pour dire que personne ne peut cacher le soleil de la mer, personne ne peut éteindre votre destinée, personne ne peut changer la direction de votre avenir. Et tant qu'on bosse, la vraie personnalité ressort.
Donc c'est un message d'encouragement.
C'est un message d'encouragement.
Il faut bosser, il ne faut rien lâcher.
Il ne faut rien lâcher et ce que tu mérites va venir vers toi en fonction du travail.
C'est un petit peu comme un autre proverbe qui vient aussi d'une autre chanson. On va l'écouter tout de suite.
Quelle que soit la force de la neige, le soleil ne sera jamais congelé. Ici c'est Paris.
J'ai mis mon pied dedans, dans mouvement, mouvement d'Adagola. J'ai mis mon pied dedans, dans mouvement, mouvement d'Adwetila.
Zagba, c'est quoi le proverbe là?
L'hiver va beau tomber,
ça veut
la
dire...
neige va beau tomber, mais le soleil va toujours briller. C'est-à-dire, ça va, quelle que soit la force de la neige va tomber, on va dire moins 2 degrés, moins 4 degrés, avec le niveau de la neige, mais forcément le matin, le soleil ressort.
Alors, si j'arrive pas à me motiver, qu'est-ce que vous pouvez me dire pour me secouer un peu les puces?
Bon, chez nous, en Côte d'Ivoire, quand tu es au bout du rouleau, on te dit simplement, si tu es fatigué, il faut Joe, nous on est là.
C'est quoi Joe?
Joe, c'est rentrer. C'est rentrer à la maison, il y a beaucoup d'essence.
Ah, faut aller te coucher, quoi.
Voilà, va te coucher, va te reposer. Si tu es fatigué de ta vie, il faut partir, nous on continue le combat.
En tout cas, on sent que vous êtes bien décidé à laisser des traces positives. D'ailleurs, il y a un autre proverbe qui parle de traces positives et de télé, je crois. Vous dites, on a décidé d'allumer la télé.
Allumer la télé, c'est mettre en valeur ce qu'on fait de positif. Quand la télé est allumée, on doit bien la regarder. Donc quand ton travail il est bien fait, il y a des gens qui regardent. Donc,
ah, c'est la télé qui est allumée. C'est comme mettre un coup de projecteur en
voilà,
fait.
Voilà, positivement.
Bon, attention, l'ambition c'est bien, les coups de projecteur c'est bien, mais il y a quand même des limites à ne pas dépasser. Qu'est-ce que vous me diriez dans ce cas-là?
Le chat ambitieux ne mangera pas la souris enceinte.
Aux oies, ça va.
Merci Zach Balrequin, merci beaucoup.
Le chat ambitieux ne mangera pas la souris enceinte. Kim Gavario, c'est toujours bien fait.
Le propre PDG Julien Coury, et même plus.
Quelle rencontre, Lucie, Zagba le requin.
Rien que ça.
Un million de followers sur les,
oui,
sur les réseaux,
oui,
sociaux. Vous côtoyez les stars, le chat ambitieux.
Je crois qu'il a beaucoup plu à son
Le chat ambitieux ne mangera pas la souris enceinte. Vous en pensez quoi, Sylvie Brunet?
Ouais, pas mal. C'est pas mal du tout. Oui, c'est, oui. Et c'est... Puis c'est bien dans l'esprit des proverbes, chat, souris, de prendre comme ça une image et puis d'avoir un message moral. Je trouve que c'est très bien. Ouais.
Vous pourriez faire un livre sur les proverbes, pardon.
Ça serait quoi l'équivalent, vous pensez, Sylvie, la transcription en proverbe français?
Moi, je dirais l'expression avoir les yeux plus gros que le ventre, mais je n'ai pas de proverbe qui me vienne immédiatement, mais il doit y en avoir.
Il manque peut-être cette ouais. notion justement
mais c'est bien sûr. En tout cas, le chat ambitieux ne mangera pas la souris enceinte, j'adopte. Merci beaucoup Sylvie Brunet. Ces mots qui n'existent pas est édité aux éditions de L'Opportun et on se retrouve bientôt pour une puce puisque vous avez passé un pacte avec Lucie. De vive voix, Pascal Paradou, Cécile Lavolo, Raphaël Pluskova, Laura Pinto à la réalisation. On se retrouve bien sûr demain, même heure, même fréquence.